Bonjour à tous. Ce matin, on va parler de Jonas. Alors, je suis particulièrement content de vous partager ce livre de Jonas parce que c'est un livre qui est très particulier. Je l'ai redécouvert en préparant ce message, dans le sens où c'est une histoire qu'on a l'habitude d'entendre dans les écoles du dimanche. Et c'est une histoire qui est assez accessible pour les enfants. On la raconte assez facilement, et puis ils comprennent le message global de ce livre. Et c'est intéressant de voir l'importance qu'on accorde à ce poisson. Quand on parle de Jonas, on parle de poisson, on imagine baleine, et puis on imagine peut-être Pinocchio dans le ventre de ce poisson. Et on a tellement regardé ce poisson que finalement, on en a oublié ce grand Dieu. Et la partie la plus miraculeuse de ce récit, c'est pas les 3 jours que Jonas a passé dans le poisson, mais c'est la grâce de Dieu qui se manifeste à des pécheurs. C'est des gens qui se repentent. On va voir un petit peu rapidement le contexte. Donc, je vous avais demandé, si possible, de lire ce livre. Alors, j'espère que vous l'avez fait, ou alors que vous le connaissez assez bien, parce qu'on ne va pas le prendre dans le détail, on ne va pas lire ensemble ces 4 chapitres, mais on va le survoler, on va voir un petit peu un certain nombre d'applications. Mais là, rapidement, on va essayer de comprendre le contexte de ce livre de Jonas. Alors Jonas, il était né donc à Gath-Hépher, il était fils d'Amittai. La première fois qu'on entend parler de ce gars-là, c'est dans 2 Rois, au chapitre 14 et au verset 25. Donc on va se rendre compte que ce n'est pas la première mission de Jonas. Jonas, ce n'est pas un rookie, il a déjà été prophète, et il a eu notamment des oracles qu'il a annoncés au roi Jéroboam II, le roi d'Israël. Donc là, Jéroboam II rétablit les limites d'Israël depuis l'entrée de Hamath jusqu'à la mer de la plaine, selon la parole que l'Éternel, le Dieu d'Israël, avait prononcée par son serviteur Jonas, le prophète, fils d'Amittai, de Gath-Hépher. Donc on voit d'où il vient. On n'est pas très sûr que ce soit lui, Jonas, l'auteur. Les théologiens ne sont pas tous d'accord sur ce point-là. Néanmoins, à la limite, peu importe. En tout cas, c'était probablement quelqu'un qui était dépositaire de ce témoignage de Jonas. On date grosso modo ce livre d'entre 785 et 760 avant Jésus-Christ. Et il est classé dans la section des petits prophètes. Alors il y a les 4 grands prophètes, ou premiers prophètes, et puis après il y a les 12 petits prophètes. Et donc Jonas, il est dans cette section, et notamment à cause d'un verset en particulier qu'on peut retrouver au chapitre 3, qui est ce jugement que Jonas prononce contre le peuple ninivite. Et il y a juste ce petit verset, mais sinon l'ensemble du style littéraire, du genre narratif de ce livre, c'est du style historique, comme on pourrait retrouver dans le livre des rois ou dans le livre des juges. C'est un livre qui est intéressant parce qu'il y a beaucoup d'analogies qui sont faites. Alors il y en a qui sont faites notamment avec le peuple d'Israël, qui était le peuple qui avait la promesse, qui était le peuple qui était ce peuple premier pour lequel il y avait la promesse de Dieu qui était là, et puis qui finalement va s'étendre aussi aux païens. Et là, on va voir au travers de ce livre de Jonas que c'est la même chose. Il y a cette promesse qui était là et qui va s'étendre aussi au peuple ninivite, qui n'était pas le peuple de la promesse à la base. Il y a également aussi beaucoup de parallèles d'ailleurs qui sont faits avec Élie. C'est intéressant, il y en a énormément, mais il y en a un qui est assez particulier, c'est quand, si on regarde en arrière, Élie, dans 1 Roi, au chapitre 19, verset 4, Élie demande la mort parce que sa prédication ne porte pas de fruit. Et là, on va se rendre compte dans le livre de Jonas, au chapitre 4, que lui demande la mort parce que justement sa prédication porte des fruits. Donc finalement, au travers de tous ces parallèles, on peut voir que, grosso modo, Jonas est un petit peu le anti-Élie. Et puis il y a aussi un parallèle qui est évident avec Jésus, Jonas qui passe 3 jours et 3 nuits dans le poisson, et Jésus qui passe 3 jours et 3 nuits dans le ventre de la terre pour être ressuscité. Donc c'est un écrit prophétique. Généralement, un écrit prophétique, on parle de l'homme de Dieu, on parle de son obéissance, de son appel, on essaie un petit peu de le mettre en valeur, mais là, dans ce livre de Jonas, on détruit le prophète. On est en train de lui pourrir sa réputation. Si on cherche un livre dans l'Ancien Testament qui détruit la réputation d'un prophète, il n'y aura pas d'équivalent que celui de Jonas. Il est décrit sous son plus mauvais jour. Un livre prophétique, ça raconte aussi comment les oracles de Dieu, comment la prophétie va s'accomplir. Et là, au travers de ce livre, on voit comment ce jugement qui était prévu pour les Ninivites ne va justement pas s'accomplir. Le message central, grosso modo, de ce texte, si tu peux passer à la suivante, c'est l'œuvre de Dieu dans le cœur de son serviteur est aussi importante que le résultat de son service. Dieu l'aurait pu susciter n'importe qui pour parler, pour annoncer ce jugement aux Ninivites. Mais il a choisi Jonas. Il a choisi un prophète imparfait. Et il va travailler le cœur de ce serviteur. Maintenant, est-ce que Jonas... Ah, un petit peu... Ouais, c'est un... On voit Jonas, donc... Là, enfin, c'est des photos que j'ai prises sur le net, qui sont des vraies photos. Et ce que je voulais, au travers de ça, c'était un petit peu appuyer sur Jonas. Est-ce que c'est un mythe ou est-ce que c'est une réalité? Alors, les théologiens ne sont pas tous d'accord. Néanmoins, la majeure partie s'accorde pour dire que oui, tout ça, ça s'est bien passé. La première chose qu'on peut se demander, c'est est-ce que Jonas a vraiment été avalé par un poisson? Et il y a pas mal d'histoires qui parlent d'hommes, d'animaux qui ont été avalés par des poissons. Il y a notamment, pas plus tard qu'il y a 2 semaines, dans les... côte sud-africaine, il y a un plongeur qui était là parmi des harengs. Et puis les baleines, qui ont l'habitude de, pour ramasser le hareng, d'ouvrir grand leur bouche et de gober tous ces harengs, bah, ils ont aussi gobé le petit plongeur sud-africain qui a été recraché quelques secondes après. Et une autre histoire d'un chien qui a passé 6 jours et 6 nuits dans le ventre d'un poisson et qu'on a retrouvé vivant, donc, en train d'aboyer peu de temps après. Il y a une autre histoire qui est plus vieille, elle, un certain James Bartley. Donc c'était au large des îles, dans les îles Falkland, au large du sud de l'Argentine, donc un petit peu à la droite. Il y avait tout un tas de chasseurs de baleines qui étaient là pour chasser la baleine. Et puis il y a un gars qui finalement était déséquilibré, qui est tombé à l'eau et qui a été avalé par ce poisson. Et il a pu donner des signes de vie. Et on a retrouvé 2 jours après cette baleine morte. On a ouvert le ventre de la baleine. Et on a retrouvé ce James Bartley dans le coma, mais vivant, avec pas mal de taches, notamment sur le cuir chevelu, parce que l'acide gastrique avait attaqué un petit peu son corps, il avait pas mal de taches. Néanmoins, il était vivant. Et il y a des revues qui, à l'époque, justement, ont relaté ce témoignage. Et si on a le temps, on le verra tout ensemble un petit peu après. Donc, ça, c'est des exemples, simplement pour illustrer voilà, que finalement, être avalé par un poisson, c'est quelque chose de possible. Mais il y a un argument qui, à lui seul, suffit à me convaincre, à titre personnel, c'est que Jonas, qui donc est cité dans le livre de 2 Rois, est également cité par Jésus. Il est également cité par Jésus, on va le voir sur ce verset, où Jésus utilise un personnage historique pour raconter ce qui suit. Quelques spécialistes de la loi et des pharisiens intervinrent en disant « Maître, nous voudrions te voir faire un signe miraculeux. » Et Jésus leur répondit « Ces gens de notre temps qui sont mauvais et infidèles à Dieu » réclame un signe miraculeux, un signe, il ne leur en sera accordé d'autre que celui du prophète Jonas. En effet, comme Jonas resta 3 jours et 3 nuits dans le ventre du poisson, ainsi le Fils de l'homme passera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Au jour du jugement, les habitants de Ninive se lèveront et condamneront les gens de notre temps, car eux, ils ont changé de vie en réponse à la prédication de Jonas. Or, il y a ici plus que Jonas. Donc là, Jésus, je ne peux pas imaginer qu'il utilise un personnage historique pour raconter une parabole. Pour raconter quelque chose qui est aussi important que sa résurrection. Que Jonas, finalement, va préfigurer la résurrection de Christ. Et aussi, il parle des Ninivites. Donc, voilà, c'est un argument, en tout cas, qui suffit à me convaincre. On va voir que le métier de prophète, aussi, ce n'était pas un métier qui était facile. En gros, être prophète, ça se résume à annoncer des... tu peux aller sur la suivante. Annoncer des mauvaises nouvelles à des gens très puissants. La plupart du temps cruels. Des gens qui peuvent te mettre en prison et qui peuvent faire bien pire. Et on peut voir aussi dans l'Ancien Testament qu'il y avait pas mal de prophètes qui avaient une fâcheuse tendance à se débiner, à essayer de négocier avec Dieu. On voit qu'il y avait Jérémie, qu'il y avait Ésaïe, qu'il y avait Moïse. Quand Dieu lui pose la question « Va là-bas parce que je t'y appelle », Moïse il est en train d'essayer de se trouver des excuses, mais je ne sais pas parler. Puis là, Dieu lui dit « Aaron ». Mais il n'y en a aucun qui, comme Jonas, n'essaye même pas de négocier, mais se barre à l'opposé. Et qui fait exactement l'inverse. Il essaie même pas de discuter avec Dieu. C'était aussi un métier qui n'était pas très facile, parce qu'à l'époque, il y avait énormément de faux prophètes. Donc il y avait des faux prophètes qui étaient là pour Baal, d'autres pour Mammon, etc. Et on se rend compte en fait qu'aujourd'hui, si on fait un parallèle, il y en a aussi beaucoup d'autres, des faux prophètes. Là, je vous ai mis nos faux prophètes d'aujourd'hui. Alors, ok, vous pourrez me dire, ouais, Mathieu, t'exagères un peu, c'est pas des faux prophètes. En tout cas, c'est des influenceurs de notre monde qui sont là pour nous donner une autre vision du monde. Ils ne disent pas que des choses fausses, ils disent des choses vraies, mais ils les tordent. Et c'est ça la nuance. On nous dit qu'il faut acheter ça, on nous dit qu'il faut être comme ceci, qu'il faut avoir tel type d'image. Et ces médias nous soufflent un bruit de fond qui est tout le temps là à nos oreilles et qu'on ne peut pas éviter. et qui essaie de nous faire comprendre que la vision de Dieu, ce n'est pas la bonne, et qu'il en faut une autre. Et celui-ci, qui est là, en bas, à droite, à votre gauche, Johnny Hallyday. Alors, vous allez me dire, peut-être que vous le connaissez bien, peut-être que vous l'aimez. En tous les cas, moi, ce que je ne connais pas très bien son registre. Une seule chose, c'est qu'au début de sa carrière, il a fait une chanson qui s'appelait, en 1982, « Veau d'or, vaudou ». Alors, je vais aller regarder un petit peu les paroles, et je ne peux pas les citer ce matin. Mais c'est comme si c'était directement tiré d'un livre de magie. Il en faut beaucoup pour me choquer, mais là, je peux vous dire que quand j'ai lu les paroles, c'était abject. C'était vraiment une insulte à Dieu. Et en fin de carrière, en 2018, il a fait dans son dernier album une chanson qui s'appelle « J'en parlerai au diable », où il raconte un petit peu ce qu'il lui dira quand ce sera le moment. Et ce gars-là, il est idolâtré, il a encore beaucoup de disciples aujourd'hui. Donc on se rend compte que d'une certaine manière, il y a plein de faux prophètes qui nous abreuvent d'un discours qui est tordu, qui est erroné. Alors on a nos faux prophètes, mais on a aussi nos Jéroboam. Alors il y avait Jéroboam II à l'époque, mais aujourd'hui si on va un peu plus loin, on peut être à Jéroboam 32. Et puis on avait notre Jéroboam 32 qui descend de son scooter, qui enlève son casque, et puis qui va voir sa maîtresse. Et puis on a ce Jéroboam 32 qui nous dit aussi que le mariage pour tous, bah c'est bien. Donc on a aussi nos lots de faux prophètes et de Jéroboam. Maintenant, on va se plonger un petit peu dans l'histoire de Jonas. L'histoire de Jonas, donc, elle se divise en 4 chapitres. Et il y a grosso modo 2 tableaux. Un premier tableau, c'est la désobéissance de Jonas et la fuite. Et le deuxième tableau, c'est son obéissance et la repentance des Ninivites, avec à la fin ce dialogue entre Dieu et Jonas. Dieu appelle Jonas, qui est à Gath-Hépher. Il appelle à aller à Ninive. Ninive, c'est 800 km à peu près à marche ou à dos de chameau d'Israël. C'est en Irak, c'est à côté de Mossoul, c'était la capitale de la Syrie. La Syrie, c'était un peuple qui était très cruel, c'était un peuple qui avait une réputation, on voit dans certains écrits qu'ils entassaient devant la ville tout un tas de crânes pour être un avertissement pour les étrangers. Il y avait aussi dans la ville des corps qui étaient mutilés. Donc on se rend compte que c'était un peuple qui était dur, un peuple qui était mauvais. Et les soldats assyriens, ils n'avaient pas de soldes. Ils allaient se servir sur le butin. Ils seraient accusés aujourd'hui de ce qu'on pourrait appeler un crime contre l'humanité. C'était en quelque sorte Berlin en 1942. Et là, Jonas, face à cet appel, il refuse. Il refuse et il va à Jaffa. Jaffa, c'était le port de commerce le plus important. C'est le plus vieux port du monde. Et lui, il va à Jaffa et... Il affrète un bateau, il monte dans un bateau qui est piloté par des Phéniciens, et il va dans la direction opposée, il va à Tarsis. Tarsis, à peu près 3000 km au sud de l'Espagne, qui est à peu près le détroit de Gibraltar, et il veut partir là-bas. Et donc il est dans ce bateau, et puis il affronte une tempête qui est monstrueuse, monstrueuse à tel point que même des marins chevronnés ils commencent vraiment à flipper. Et puis il y a un tirage au sort qui est fait, parce qu'ils sont très superstitieux les marins, Et Jonas donc est tiré au sort. Alors nous, ça nous paraît assez évident, puisqu'on sait que Jonas, voilà, c'est le personnage principal, mais Dieu contrôle non seulement la tempête, mais il contrôle aussi ce tirage au sort. Il est au contrôle. Et donc Jonas, il dit, bon, ok, c'est bon, allez-y, c'est ma faute, balancez-moi par-dessus bord, et ça va aller. Et puis finalement, les marins, on se rend compte qu'ils aimeraient bien aussi épargner Jonas. Donc ils commencent à essayer de ramer pour aller le plus proche possible du rivage pour déposer Jonas. Et on se rend compte là, à ce moment-là, que finalement, les marins ont plus de compassion que Jonas vis-à-vis des Ninivites, et finalement la tempête se déchaîne encore plus, et puis il le jette par-dessus bord. Et puis là, Jonas commence à couler. Il va dans le cœur de la mer. Et puis Dieu commande à un poisson de venir attraper Jonas, où il va passer 3 jours et 3 nuits, et là on va lire dans le chapitre 2 une prière de Jonas, une prière de reconnaissance qui est un hymne, un psaume qui est vraiment magnifique, où il ouvre son cœur. Et après Dieu va commander à ce poisson de recracher Jonas, probablement au nord du Liban. Et puis ensuite, il va aller à Ninive, il va proclamer ce jugement. Le peuple de Ninive va se repentir, le roi va déclarer un décret, ils vont se vêtir de sacs. Alors, ce n'est pas des sacs poubelles, c'est des sacs de poils qui symbolisaient finalement cette idée de se mettre dans cet état d'esprit du pauvre qui n'a quasiment rien, de se repentir, de se dire qu'on est à nu et qu'on regrette. Donc il y avait vraiment une réelle repentance de ce peuple ninivite où il disait que même les animaux étaient atteints par ce décret. Et là donc, le jugement qui était prévu pour les ninivites passe. Et Dieu fait grâce. Et là, Jonas se raciste, se haineux vis-à-vis du peuple ninivite, se fâche. Et puis il va monter sur une montagne en espérant regarder peut-être ce qui va se passer, peut-être que Dieu va changer d'avis, peut-être que finalement il va quand même leur envoyer le jugement. Et puis il y a ce discours, ce dialogue qui est là entre Dieu et Jonas avec le petit épisode du ricin, qui est une plante qui était là pour le couvrir, où finalement Jonas a de la compassion pour une plante qui a un seul jour de vie. Et Dieu lui dit, mais tu as compassion pour cette plante, pourquoi n'aurais-je pas compassion de 120 000 âmes qui ne savent pas distinguer leur droite de leur gauche ? On découvre dans ce livre de Jonas le caractère de ce gars-là. Alors c'est un mec qui était têtu, colérique, égoïste, impulsif, insensible, dur, dépressif, raciste. Franchement, je me retrouve dans tout, à l'exception de raciste. Et je trouve que c'est rassurant de voir ce caractère dégueulasse, entre guillemets, de Jonas, parce qu'on peut aussi se mettre à la place de ce gars-là. On peut se dire, bah, finalement, moi aussi, je suis comme ça. Et c'est rassurant de voir que Dieu utilise des prophètes aussi imparfaits que Jonas pour son ministère, pour son service. Parce que Dieu veut utiliser des prophètes imparfaits pour les amener à la sanctification. Et là, il y a un choix qui doit se faire. Un choix entre Tarsis et Ninive. La mission de Jonas, c'était annoncer la miséricorde universelle. La miséricorde pour le peuple d'Israël, ok, mais pour les Ninivites, ah. Et là, Dieu lui dit, va à Ninive. Et Dieu donne un délai de 40 jours. Et Jonas sait, parce qu'il connaît Dieu, il sait que si Dieu donne un délai, il leur donne aussi un délai pour se repentir. Et lui, il n'a pas envie qu'ils se repentent. Et il se fâche. Et on a assez tendance à tirer assez rapidement sur Jonas en lui disant, hey, quand même, c'est pas très cool ce que tu fais. Mais si on se mettait à sa place, imaginons, on est en 1942, sous le régime de Vichy, on est à Vichy, on est juif, on a une étoile jaune qui est cousue sur notre blouson, et puis Dieu nous dit, écoute, mon gars, tu vas aller à Berlin. Et tu vas aller dans les rues de Berlin, et tu vas crier à tous les Allemands que s'ils ne se repentent pas de leurs crimes contre l'humanité, la ville va être rasée. Là, humainement, on pourrait dire que notre espérance de vie, elle serait proche de zéro. Donc il ne faut pas trop rapidement qu'on jette la pierre à Jonas. Donc là, Jonas, il est à Jaffa, donc. Il a ce choix à faire, et il est dans la partie sud de Tel Aviv, qui est vraiment magnifique. Et c'est un port avec une activité commerciale assez importante. Et finalement, le Tarsis, donc, qui est merci sur cette image, ça représente le bout du monde. C'était le plus loin où on pouvait aller pour faire des transactions commerciales. Donc là, au travers de ce mot, de cette ville Tarsis, il faut comprendre, Jonas va au bout du monde. Il va l'opposer le plus loin possible qu'il peut de la face de Dieu. Et peut-être qu'il se dit aussi justement qu'en allant aussi loin, ça permettra que ce délai de 40 jours soit écoulé puisqu'il est suffisamment loin. Et puis après, oh désolé, c'est fini. Le jugement de Dieu doit arriver. Et puis du coup, par opposition, il y a Tarsis. Alors là, Tarsis, c'est le Club Med. Tarsis, c'est des belles étendues de sable blanc, c'est un cocktail sur la plage, c'est la belle vie. Et si je vous parle de ça ce matin, c'est parce que nous aussi, on a un choix à faire. Nous aussi, on a un choix à faire entre aller à Tarsis, suivre notre volonté, ou alors aller à Ninive, suivre ce que Dieu a nous dire. Est-ce qu'on est prêt à relever ce défi ce matin ? De dire, Seigneur, tu veux m'envoyer à Ninive ? Ça me paraît complètement fou, mais ok, je vais y aller. Tarsis, Ninive. Pour Tarsis, le monde nous dit, remplis ton réservoir d'émotions positives le plus rapidement et le plus intensément possible. Et Dieu nous dit pour Ninive, mais vous êtes des serviteurs appelés à marcher dans des voies préparées d'avance. C'est là où je veux que vous alliez. Et c'est facile à dire pour nous de nous dire serviteurs quand on est ici entre nous dans une église, mais quand on est sur son lieu de travail, dès qu'on est en situation, dès qu'on est à l'école, là c'est notre histoire. Et puis on peut avoir justement tout un tas d'excuses. Un tas d'excuses pour ne pas aller à Ninive. Si tu veux aller sur la suivante. C'est fou, personne ne fait ça. Ils ne vont jamais m'écouter, c'est inutile. En plus, si les Israélites voient Jonas, qui se sont fait, en tant qu'Israël, en tant que peuple d'Israël, qui se sont fait défoncer par les Assyriens, ils vont dire, mais attends, tu vas pactiser l'ennemi. En gros, tu es en train de leur dire que, alors qu'ils nous ont militairement écrasés, qu'on a peut-être une chance parce que le jugement de Dieu va les atteindre, et tu es en train d'essayer d'aller leur donner une deuxième chance, mais tu pactises avec l'ennemi. C'est impossible, je ne parle pas la langue, donc il parlait le kurde, probablement que Jonas ne parlait pas le kurde. Je n'ai pas l'argent du voyage, quand même 800 km, ça ne se fait pas comme ça. Ils vont me tuer, il n'a pas envie forcément que sa tête soit empilée sur le tas de crânes qui est à l'entrée de la ville. Il ne mérite pas la miséricorde et ce n'est pas ma priorité. Et puis on a aussi d'autres excuses pour aller à Tarsis. C'est mon droit, je suis libre. Voilà, pourquoi on devrait m'imposer d'aller à tel ou tel endroit ? Finalement, j'ai mon libre arbitre, j'ai des obligations professionnelles là-bas, j'ai un super boulot qui m'a été proposé et franchement, pour ma carrière, il faut vraiment que j'y aille, c'est le choix le plus sage à faire. Ou alors j'ai un projet spirituel à Tarsis. On a une mission humanitaire assez sympa, on a prévu de faire des campagnes d'évangélisation sur les plages de Malaga, ça va être super. Ou alors j'ai rencontré une fille à Tarsis. C'est plus urgent. Écoute, dans mon calendrier, Seigneur, tu vois, j'ai pas mal de choses. En plus, là, j'ai mes congés, ça colle justement. Il faut peut-être mieux d'abord que j'y aille là-bas, donc à Tarsis. Et puis après, je ferai ce que tu me diras. Ou alors, ça va me faire du bien. C'est vrai que là, je suis un petit peu avec le moral dans les chaussettes et j'ai besoin de me reposer, j'ai besoin de passer des vacances, j'ai besoin d'y aller. Ou alors, un autre me l'a conseillé. Ça, c'est pratique. Hein. Quand on est dans une église, on trouvera toujours quelqu'un pour nous conseiller ce qu'on a envie. Il suffit de discuter avec beaucoup de personnes. On trouvera quelqu'un qui est d'accord avec nous et qui nous dit « Oui, vas-y, c'est bien. » Et puis après, autre, vous pouvez mettre votre excuse à vous-même. Mais qu'est-ce que nous dit la parole de Dieu ? C'est ce verset qui est souligné qu'on va lire et qu'on trouve dans Colossiens 1, versets 9 à 11. « Nous lui demandons aussi que votre conduite fasse honneur au nom du Seigneur et lui plaise à tous égards. » que vous réjouissiez son cœur en portant des fruits qui lui soient agréables, c'est-à-dire toutes sortes d'activités utiles, que vous fassiez des progrès dans la connaissance de Dieu. On est là aussi sur terre pour réjouir le cœur de Dieu, en portant des fruits qui lui soient agréables. Le verset suivant, dans Éphésiens 2, verset 10, « En réalité, c'est lui qui nous a fait. Nous avons été créés en Jésus-Christ pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. » Dieu, il nous a préparé quelque chose. Il y a quelque chose qui est là, qui est pour nous. Il y a notre appel. Et c'est des œuvres qui sont bonnes. C'est des œuvres qui vont réjouir le cœur de Dieu. Et puis le verset suivant, 1 Corinthiens 6. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été racheté à un grand prix. Sur cette croix, Jésus, alors qu'il y avait ce jugement qui était réservé comme à Ninive, ce jugement de mort qui était là, Jésus, il a racheté à grand prix, au prix de sa vie, le fait qu'on puisse maintenant bénéficier de cette grâce. Et toi, aujourd'hui, où est-ce que tu en es personnellement, maintenant ? Est-ce que tu es à Gath-Hépher ? Est-ce que tu es dans le village d'origine ? Est-ce que tu es encore chez toi, bien au chaud dans ton cocon ? En te disant, de toute façon, si je ne vais pas à Ninive, si je ne vais pas à Tarsis, finalement, je ne fais pas d'erreur. Ou alors, est-ce que tu es sur le bateau ? Et là, tu es sur le bateau, il fait beau, tu as payé ton ticket, les marins sont sympas, c'est la croisière s'amuse. Et puis là, au fond, tu vois une grosse tempête. Irma puissance 10. Et tu dis, mais attends, j'ai mon dépliant là, de la croisière, mais ce n'était pas au programme, ça. Et puis tu demandes à Dieu ce qui se passe. Et Dieu te dit, mais regarde le livre de Jonas, regarde ce qui s'est passé. Ou alors est-ce que tu es dans le ventre du poisson ? Je ne sais pas si ça vous est arrivé, mais en tout cas, quand j'ai lu ce livre de Jonas, j'ai essayé de m'imaginer ce qu'il pouvait vivre, Jonas, dans ce ventre du poisson. Et tout à l'heure, je vous ai parlé d'un James Bartley qui a été avalé par un poisson pendant 2 jours. Et donc, du coup, il y a eu une histoire qui a été racontée de ce passage-là. Donc James se rappelle, je vous cite un petit extrait de ce livre, « James se rappelle s'être senti soulevé en l'air par le mufle de la baleine, puis être retombé dans l'eau. Après quoi il eut un fracas effrayant d'eau qui se précipitait. Sans doute, pensa-t-il, le bruit des coups de queue de la baleine. Puis il se retrouva enveloppé d'une terrible obscurité et se sentit glisser le long d'un passage lisse qui semblait se mouvoir et le faire avancer. Mais cela ne dura qu'un instant et il sentit alors qu'il avait plus d'espace. Il tâtonna autour de lui et ses mains se trouvèrent en contact avec une substance visqueuse qui paraissait se recroqueviller dès qu'il la touchait. Il commença enfin à comprendre qu'il avait été avalé par la baleine et l'horreur de sa situation le terrifia. Il n'avait point de peine à respirer, mais la chaleur était intolérable et elle ne le brûlait ni le suffoquait, mais elle semblait lui ouvrir les pores et le priver de sa vitalité. Il devint extrêmement faible et souffrait de l'estomac. Il savait qu'il n'avait guère d'espoir de s'évader de cette étrange prison. Voyant la mort en face, il tâchait de l'affronter en brave, mais l'affreux silence, l'effroyable obscurité, l'horrible sensation de ce qui l'entourait et la chaleur terrible finirent par avoir raison de lui, et il dut s'évanouir, puisqu'il ne se rappela plus rien jusqu'au moment où il se retrouva dans la cabine du capitaine. Donc ça, c'est cette histoire qui nous est racontée, et c'est ce que Jonas a vécu quand il était là, au fond du gouffre, quand il a adressé cette prière magnifique de reconnaissance à Dieu. Et puis, est-ce qu'on est à Tarsis ? Est-ce qu'on est à Tarsis en se disant, mais là, c'est super, je suis au bon endroit, il fait beau, Dieu me bénit, c'est vraiment cool. Et puis finalement, qu'est-ce qu'on a fait ? On est dans cette voiture où Dieu était au volant, et puis on a mis Dieu côté passager. Et puis Dieu, il est là, il nous dit, mais écoute, prends à gauche, prends à droite, et puis non, t'inquiète, j'irai après, mais d'abord, je vais plutôt là-bas, c'est vraiment là où je voudrais aller. Et nous, on a cet ordre de mission qui est là, où on a déjà tout rempli. Et on dit, Seigneur, tu ne voudrais pas juste me mettre un tampon, tu ne voudrais pas juste bénir tout ça, tous ces projets que j'ai. Et là, Dieu nous dit, mais écoute, voici mon ordre de mission. Et là, il nous tend une feuille vierge. Signe en bas. Mais Seigneur, je ne sais pas ce qui m'attend. Fais-moi confiance, signe en bas. C'est ça que nous demande Dieu. Est-ce qu'on est en route pour Ninive ? Souvent, on lit les versets hyper rapidement entre Jonas est recraché sur la plage, et puis il va à Ninive. C'est vraiment le saut d'une ligne à l'autre. Mais entre ce moment où il a été recraché sur la plage au nord du Liban et le moment où il était à Ninive, il va encore un paquet de kilomètres, des centaines de kilomètres. Et là, pendant ce chemin, peut-être que Jonas, plusieurs fois, s'est posé la question, mais est-ce qu'il ne serait pas encore temps de faire machine arrière ? Est-ce que je ne peux pas encore fuir de nouveau ? Ou alors, est-ce que vous êtes arrivé à Ninive ? Est-ce que vous êtes dans le plan de Dieu ? Et puis là, il y a un miracle qui se produit, c'est que quand on est dans le plan de Dieu, il y a une paix qui nous accompagne. Il est avec nous. Il y avait un officier militaire chrétien qui avait fait cette prière qui était que il voulait que Dieu, il priait pour ça, lui accorde cette même paix au cœur de la bataille que quand il était tout seul chez lui dans son lit. Et c'est ce miracle-là qui se produit pour chacun d'entre nous. C'est que quand on est à Ninive, quand on est avec Dieu, il y a cette paix qui nous accompagne. Et il va faire réussir cette mission pour laquelle il nous a envoyés. Est-ce que toi, ce matin, tu veux sortir du ventre du poisson ? Peut-être que ça fait 3 jours que tu es dans ce ventre du poisson, dans la machine à laver céleste, et que ce n'est pas facile. Peut-être 3 ans, peut-être 30 ans. Et puis, il y a devant toi cette Ninive qui est terrifiante. Mais prends courage. Prends courage et rappelle-toi que Dieu a préparé d'avance ses bonnes œuvres et qu'il va nous accompagner. Dans le ventre du poisson, Jonas, il ne voulait pas donner cette grâce. Et pourtant, il en a été le premier receveur. Et Dieu veut aussi changer notre cœur en nous donnant sa grâce. L'histoire de Jonas, c'est une grande histoire de rébellion, mais une grande histoire de rébellion couplée avec une immense histoire de grâce. Et je voudrais vous laisser un verset d'encouragement. Ah, pardon, d'abord, et on a chacun son Ninive. Là, on voit aussi que on a chacun des situations qui sont particulières, qui sont propres à chacun selon nos différents contextes dans lesquels on est né, dans lesquels on travaille, etc. Et Paul, lui, il avait son Ninive. Paul, il était, à la fin de sa vie, il nous a dit « J'ai combattu le bon combat ». Il était en paix. Et on peut se rendre compte, quand on lit ce verset de 2 Corinthiens, qu'il en a vécu des choses. « J'ai travaillé davantage, j'ai été plus souvent en prison, j'ai essuyé infiniment plus de coups, plus souvent j'ai vu la mort de près. 5 fois j'ai reçu des juifs les 40 coups moins 1. 3 fois j'ai été fouetté, 1 fois lapidé, j'ai vécu 3 naufrages, j'ai passé 1 jour et 1 nuit dans la mer, donc lui aussi. Souvent en voyage j'étais en danger au passage des fleuves, dans des régions infestées de brigands, à cause des juifs, à cause des païens, dans les villes, dans les contrées désertes, sur la mer, à cause des faux frères. J'ai connu bien des travaux et des peines, de nombreuses nuits blanches, la faim et la soif, de nombreux jeunes, le froid et le manque d'habits. On a tous nos Ninives. Et du coup, maintenant, le verset que je voudrais que vous puissiez vraiment garder dans votre cœur cette semaine, qui se trouve dans Éphésiens 3, versets 20 à 21. « À celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment plus que tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire, dans l'Église et en Jésus-Christ, pour toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. » J'ai demandé aux musiciens de s'approcher. Mais gardons à l'esprit que ce livre de Jonas, qui était pour nous, quelque part, un parcours initiatique d'un homme qui a été appelé, qui a choisi de désobéir, mais qui finalement a été rattrapé par Dieu, c'est ça aujourd'hui que Dieu voudrait qu'on puisse saisir, qu'on puisse se rappeler qu'il nous accompagne. Et que même si on fait fausse route, il est encore là pour nous dire, écoute, prends ma main et suis-moi. Donc prenons courage N'ayons pas peur d'affronter ce Ninive, même si à vue humaine ça paraît impossible. Avec Dieu, tout est possible.
Merci Mathieu pour ce message il y a de quoi méditer pour le reste de la semaine. Je pense que chacun peut se retrouver quelque part dans un de ces points. Merci encore. Alors, c'est moi qui ai le rôle aujourd'hui de casser l'ambiance avec les annonces. Donc, quelques annonces que nous aimerions vous communiquer avant que l'on aille chacun de son côté pour dîner. Je vais dire un bon dîner. Peut-être que ce ne sera pas un bon dîner pour certains, mais bon. Alors, ce mardi-ci, nous avons notre soirée de prière à 20h30. Donc, tout le monde est le bienvenu. C'est ouvert à tous. C'est gratuit. Et ça peut rapporter gros. Donc, rendez-vous de prière mardi 26 à 20h30. Il va y avoir la chorale le 28 mars, si je ne me trompe. C'est bien ça? Ils sont là. Jeudi, exactement. Jeudi 28 mars à 20h. Donc, les concernés, vous êtes les bienvenus à cette soirée de chorale. Samedi, le 30 mars, c'est pasteur Yann Fontaine, pasteur à l'église du Réveil de Gex, qui va faire un concert témoignage. Donc, si vous désirez assister à ce concert-là, donc témoignage de pasteur... Ça va? OK. Pasteur, je pensais que j'avais fait une erreur dans l'annonce. Donc, concert témoignage, pasteur Yann, à 20h. Encore une fois, c'est ouvert, entrée libre. Et le lendemain matin, je vais quand même rester à samedi, parce que samedi 30 mars, la même date, il y a le groupe de jeunes qui débute à 20h, mais à partir de 19h30, vous êtes les bienvenus. Et voilà, le groupe de jeunes, c'est vraiment stylé. Rejoins-nous samedi 20h. Donc, si tu te sens concerné par les jeunes, voilà. C'est vrai que c'est stylé. On l'a vu ce matin, vraiment un gros merci à toute l'équipe de louanges, à Mathieu qui nous a apporté ce message. Super, super. C'est bon de voir ça. La relève est déjà là. C'est pas l'église d'aujourd'hui, c'est pas l'église de demain, c'est l'église d'aujourd'hui. Yes, donc ça c'était pour le 30 mars 20h. Donc vous avez le choix, soit le concert de Yann où il y a le groupe de jeunes aussi, une super activité qui vous attend. En passant de samedi à dimanche, annonce super importante. Alors là, j'attire votre attention. Lorsque vous allez vous coucher à 22h, c'est comme si c'était 23h. Parce qu'on avance nos montres. Donc manquez pas le coup, changement d'horaire pour le lendemain matin et visez de venir pour le thé café, et puis comme ça, c'est parfait, vous êtes sûr de ne pas manquer. Donc, le lendemain matin, dimanche 31 mars, nous avons notre dimanche en commun, culte en commun au Pays de Gex, donc à la salle de la Chenaille à Échenevet. Donc, thé café, je l'ai mentionné, il va y avoir aussi, on va prendre la Sainte-Seine, et les enfants vont rester durant le déroulement du dimanche. Plusieurs choses qui sont prévues, plusieurs témoignages, plusieurs différentes choses qui vont prendre place durant ce dimanche-là. Il y a aussi l'apéro à la fin, donc si vous voulez apporter quelque chose, ça sera le bienvenu. Donc, qu'on se mobilise tous pour l'apéro. L'apéro, c'est vraiment important dans cette journée-là. Le thé café, l'apéro, l'important dans la vie, c'est comment est-ce que tu commences et comment est-ce que tu finis. On commence avec le thé café, on finit avec l'apéro, et puis voilà. Et je vais avoir le privilège d'avoir, on a fait une bonne blague là-dessus, puis en fait, c'est pas une blague, mais c'est vrai, c'est moi qui suis de, comment on appelle ça ici, le bizutage, c'est ça? La prédication, invitation d'initiation, ou bienvenue au nouveau. Donc, j'ai le privilège d'apporter un message, et je vous demanderai vraiment, au-delà des blagues qu'on peut faire au niveau du bizutage, je fais vraiment appel à chacun, chacune d'entre vous, à l'église du CEP, de prier pour moi, s'il vous plaît, pour ce message-ci, parce que c'est pas dans mes habitudes de prêcher pour prêcher, donc j'ai vraiment un message qui était déposé sur mon cœur pour notre région des Pays de Gex, un message qui s'intitulera « À quoi ça sert ?» Alors priez pour moi, s'il vous plaît, que le Seigneur puisse vraiment m'aider à communiquer ce message-là et que je puisse être vraiment porté. Parce que je crois que lorsqu'on prêche, il y a toute une portion, en fait, ça c'est juste la pointe de l'iceberg quand on prêche, mais le entre guillemets, succès, on peut dire comme ça, ou le résultat d'un message, c'est tout, tout ce qui est en dessous de l'iceberg, toutes les prières des uns et des autres qui fait que le message peut être bien communiqué. Et en plus, on me donne 20 minutes pour prêcher, donc version club d'été. Alors, j'ai vraiment besoin en 20 minutes pour communiquer tout ce que j'ai à communiquer. Priez pour moi, s'il vous plaît, j'en ai vraiment besoin. Donc, lundi 1er avril, ce n'est pas une farce, mais il y a vraiment Femmes Club à 14h. Vous êtes invitées, mesdames, à rejoindre. En passant, on a une super soirée. Je ne sais pas comment est-ce qu'on était. Moi, c'est sûr, j'ai saisi l'occasion pour y aller pour une fois que les gars ont invité. Yes. Mais je dois vous avouer que c'est un peu intimidant d'arriver dans une salle où il y a majoritairement des femmes. Bon, j'étais content de venir avec ma femme, je me suis caché derrière elle. Non, ça a super bien été. On a une belle soirée avec Dabia qui nous a fait un super témoignage de tout ce qu'elle a vécu en Algérie. Une femme qui enseigne, qui forme des disciples, qui a un impact incroyable pour la cause de Jésus. C'est extraordinaire le boulot qu'elle fait avec toute son équipe, évidemment. Et on était nombreux à être là cette soirée. Donc, encore une fois, merci à Femme Club pour toutes les initiatives que vous avez pour faire connaître l'amour de Jésus. Donc, 1er avril, vous avez rendez-vous. Samedi, le 6 avril, on m'a remis une annonce ce matin. Je ne connais pas, mais ça fait depuis 1972 que ce groupe existe. Le groupe Common Gospel Quartet. Donc, c'est samedi. Il va y avoir un concert. Donc, un concert de Negro Spirituals Gospel Song le samedi 6 avril à 20h30 à Bellegarde, donc au temple de Bellegarde sur Valserine. Il y a une grosse affiche en arrière. Si vous voulez avoir plus de détails, vous pouvez aller voir justement les informations sur l'affiche en question. C'est libre, donc c'est une entrée libre. Et si vous désirez participer à ce beau concert, alors vous pouvez, voilà, c'est libre à vous de y aller si vous êtes disponible ce jour-là. J'ai bientôt terminé. Je termine avec cette presque dernière annonce. La prochaine diapo, si je ne me trompe pas, ça va être... Et voilà. Donc, la version printanière de « Un pas à la fois ». Donc, avant de se quitter, on se rappelle que la vie, c'est un pas à la fois. Je vois qu'il y a une petite annonce qui va être faite. Oui, vas-y, Nancy. Je vois que tu es dans la lancée. Donc, un pas à la fois. Prochain pas, c'est exactement. Vas-y.
L'annonce d'un pas à la fois, on a fait un peu tardivement. On vous a demandé des bottes cette semaine. Alors, on en a eu quelques-unes. Donc, on a fait avec les enfants et aussi un petit peu nous qui puissent avoir l'école du dimanche. On a décoré l'extérieur de notre église. Il nous reste quelques fleurs qui sont devant. Donc, ce n'était pas prévu. Mais donc, si vous voulez donner une petite piécette ou ce que vous voulez pour une fleur, et puis ça ira avec la collecte des écoles du dimanche. Pour compléter, il nous manque encore un peu pour la machine à barbe à papa, le projet qu'on avait. Voilà. Et puis, de toute façon, les sous surplus, on va bien trouver un autre projet après avec les enfants où on pourra donner cet argent. Je peux faire une dernière annonce, ouais, mais pas avec un pas à la fois, mais un pas à la fois en avance. Au mois d'avril, je rappelle qu'on a éventuellement le projet de faire une soirée ensemble pour le vendredi de Pâques. Il y a encore la feuille pour s'inscrire. C'est, on va dire, le dernier dimanche pour qu'après on décide si on organise ou pas cette soirée. Donc si vous êtes là, merci de vous inscrire, qu'on puisse évaluer le nombre de personnes et puis voir si on prévoit ces instants ensemble.
Merci beaucoup, Nancy. Donc, un pas à la fois, une botte à la fois, super beau projet que les enfants font. Belle occasion aussi de se rappeler, hein, un enfant de cet âge-là n'avance pas très vite, mais il avance quand même, malgré que ça va vite, ça va plus vite que ce qu'on pense pour attraper. C'est du sport, des fois, quand nos bambins courent, on réalise que, OK, ça va pas mal vite. Mais là où je voulais en venir, c'est que dans ce un pas à la fois aussi, c'est une belle occasion avec cette image-là, de nous rappeler aussi que notre marche à nous laisse un exemple aux plus jeunes. Donc, qu'on puisse vraiment, alors qu'on termine ce dimanche matin, qu'on rentre dans cette saison printanière, on a entendu l'importance du témoignage, notre témoignage de vie, ce que l'on dit, ce que l'on fait, comment est-ce que l'on réagit, laisse un exemple à nos plus jeunes. Et nous avons dans ce un pas à la fois la responsabilité aussi de faire les pas qui sont justes pour que ceux, les plus jeunes sont derrière nous, puissent mettre leurs pieds dans une empreinte qui est juste de suivre. Donc, on vous souhaite à présent, merci beaucoup. Je vois, c'est pas terminé. Oui, prolongation. On est dans les prolongations.
On t'avait communiqué.
Oui, la dernière. Oui, c'est vrai. Puis j'avais dit, t'inquiète-toi pas, je n'oublierai pas. Donc, prochaine annonce, c'est cet après-midi à 16h30. Club d'été, vous avez rendez-vous. Donc, les aides-moniteurs ont rendez-vous ici à 16h30. Chez vous, c'est pas ici, c'est chez vous. D'accord. Alors, chez vous. Parfait. Donc, on vous rappelle, les personnes concernées le savent déjà. En fait, je n'avais pas besoin de l'annoncer, en fin de compte. Non, c'est une blague. OK, donc 16h30, vous avez rendez-vous chez la famille Gezer pour le club d'été. Donc, ça s'adresse aux aides-moniteurs. Merci beaucoup pour votre attention. Et puis, on vous souhaite une bonne semaine. Et surtout, prenez bien, bien soin de vous. On se retrouve la semaine prochaine. Merci. À bientôt.